pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Le petit déjeuner est servi.
Recette anglaise made in Britain. On va faire un porridge.
De l'avoine. Franchement, il n'y avait pas besoin.
Le pain et le beurre font partie d'un petit déjeuner recommandé par les nutritionnistes.
Comme ça, moi, je me fais plaisir. Et en plus, je me fais du bien.
Des rognons, du haddock, des saucisses grillées, du bacon.
Café noir, ça donne la gnaque. Plaisir café noir. Pas de chocolat, le lait et le tralala. Parce qu'après, vous êtes complètement lobotomisé, là.
Le café n'est pas qu'un stimulant. Il diminue aussi les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires et permettrait une meilleure digestion.
Oh, et bien sûr, de la marmelade et du thé. Prends ce que tu veux.
J'ai pas faim.
Bien manger, c'est le début du bonheur.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Si vous avez encore derrière votre poste le geste un peu gauche pour tremper votre tartine de confiture dans votre tasse de café, comptez sur nous pour vous réveiller avec une émission spéciale petit déjeuner. D'où vient cette expression de petit déjeuner et cette habitude alimentaire? Pourquoi ce repas comporte une boisson chaude? Comment a été inventé le grille-pain? Et surtout, comment le réenchanter, ce petit déjeuner, pour en faire un grand déjeuner? On en parle avec nos deux invités. Lily Barbery-Coulon, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été journaliste pour Vogue et pour M, le magazine du Monde, et vous tenez le blog lilybarbery.com. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux et vous venez de publier aux éditions Marabout Pimp My Breakfast. On veut une traduction en français?
On va dire améliorer le petit déjeuner.
C'est ça, donner de l'éclat à son petit déjeuner, c'est
absolument,
bien ça.
Ouais.
Recettes et inspirations pour métamorphoser le petit déjeuner avec vos photos et celles de votre mari Bastien Coulon, c'est bien ça.
Oui.
Banana bread et golden latte en perspective, c'est très bon et ça pourrait même faire du bien par où ça passe. Christian Grataloup, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géohistorien, professeur émérite à l'université Paris Diderot et vous avez publié en 2017 Le Monde dans nos tasses, 3 siècles de petit déjeuner chez Armand Collin. Je me suis régalé à sa lecture, c'est plein de petites histoires qui font la grande. Vous racontez l'épopée passionnante de ce fameux repas matinal et on en apprend à chaque page. Dans les fauteuils de nos chroniqueurs, Elvie Ramasson, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous le matin, Elvie, c'est café, mais pas à boire.
Là, en l'occurrence, c'est café solide, ouais. Café à croquer.
Café à croquer.
Mais je suis liquide aussi, hein, pas de problème.
On va voir ça quand même, café version solide. Et Jérôme Gagnès, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, le matin, c'est raisin, mais pas à manger.
Non, c'est raisin, sous forme de jus fermenté.
Ah, jus fermenté.
Oui.
Ah, ça m'aurait étonné, tiens. Bah écoutez, on va s'y faire, hein. Au jus de raisin fermenté dès le matin,
il
pourquoi
faudra
pas
bien.
Ils ont déjà pris leur petit déjeuner pour être en forme derrière la console. C'est Laurent Thomas, Rémi Sitsiaga et Nadia Chougui. Djoubaka pour la programmation musicale. Nos infos pratiques, les recettes de nos invités, le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Juste avant de boire la tasse, je vous donne comme promis des nouvelles de mon voyage en Terre Sainte. J'étais invité toute la semaine dernière par l'Institut français de Jérusalem pour parrainer la grande semaine de la gastronomie française qui se déroulait à Jérusalem et en Cisjordanie. Alors autant vous dire que ce fut une expérience intense, très émouvante, et j'ai évidemment profité de ce premier voyage à Jérusalem pour renifler, goûter, savourer cette ville vertigineuse où cohabitent, comme vous le savez quand même, 3 religions, islam, judaïsme et christianisme, des dizaines de communautés palestiniennes, coptes, juives et yéménites, georgiennes, arméniennes, etc. et des centaines de spécialités culinaires. J'ai très très fort pensé à vous, Elia.
Oh,
je vous ai rapporté 2 cadeaux.
Ah,
le premier cadeau, c'est celui-ci, dans son pot
Qu'est-ce
de plastique blanc, à votre avis.
Oh, je pense que je sais ce que c'est.
Ah.
C'est du tahine, non?
Votre passion.
Oh là là, j'adore
le
ça.
Le tahiné de Jérusalem. Tahiné. Définition, s'il vous plaît.
Purée de sésame.
Bravo, crème de sésame. Tahiné pour les Arabes, trina oh pour les Juifs israéliens. Vous aimez ça, Lily, ou pas?
Je suis sûr
que oui.
J'adore ça. Ouais, ah. Ouais, je ne vis pas sans. Alors moi, j'appelais ça du tahin, mais
il y a toutes les appellations
c'est
possibles.
C'est entre la composition du.
Et c'est
romous,
très bon, absolument.
L'autre de nos passions.
Évidemment, la purée de pois chiche qui est liée comme ça, rehaussée, améliorée avec le tahiné.
Alors pourquoi est-ce qu'il est scellé dans une enveloppe en plastique qui est à peu près inouvrable?
Pour éviter que ça fuit dans ma valise qui était en soute.
D'accord.
Vous avez
non,
d'autres questions?
Pas là.
Non, surtout
non,
pas.
Non,
puis
okay.
Je suis à peu près sûr que il y aurait des risques que vous finissiez le pot d'ici la fin de l'émission. Il en est hors de question.
C'est trop gentil, merci François.
J'ai un deuxième cadeau. Une adresse où il est urgent, Elvira, d'aller vous attabler. direction la vieille ville de Jérusalem.
Et on est chez Abou Choukri, dans la vieille ville, Via Dolorosa, 5e station. Dans la vieille ville, il y a le quartier chrétien, quartier juif, quartier musulman. Il est dans le quartier musulman. Et donc, ça, c'est un resto qui présente la bouffe, la nourriture traditionnelle palestinienne. Hummus, il y a fatte, il y a moussabaha. Mais à la base, tout est basé sur le hummus, mélange hummus et tahina.
Abou Choukri, une cantine populaire et très bon marché, qui a la réputation quand même de préparer l'un des meilleurs houmous de Jérusalem. Je m'y suis attablé avec Laure et Samir, qui travaillent pour l'Institut français de Jérusalem. C'est eux qui m'ont fait découvrir l'adresse. Mais il y avait aussi Camille, une gourmette qui était du voyage. Imaginez une table couverte, littéralement couverte, de petits plats multicolores.
Là, on a moussabaha.
Moussabaha, c'est les pois chiches qui sont entiers avec un peu de tahiné.
Overdose, ce qu'on appelle de tahiné dans le moussabaha. Hummus, le hummus c'est pois chiches secs, écrasés, mélangés avec tahina, citron et autre chose que je ne connais pas. Et foule.
Donne-moi une définition du foule.
Les fèves, voilà, ça c'est le foule.
Laure, tu peux goûter un peu de hummus pour nous?
Oui. Je coupe la pita. Et je la trempe en fait comme pour saucer une assiette dans le houmous. Et là je vais le manger. Il est très bon, il est très crémeux. Il y a un petit goût en plus d'herbe. Alors je sais pas ce que c'est, peut-être que Samir nous dira.
Persil, non?
Sûrement du persil. Et il est fondant. D'avoir la petite huile d'olive en plus dessus, ça ajoute une touche de douceur sur le houmous.
On a aussi falafel.
En Palestine, il est fait à la base de pois chiches.
Et de fèves?
Non, en Égypte c'est de fèves, mais chez nous c'est pois chiches.
Camille, tu peux goûter un falafel pour nous?
Excellent, très très bon, un très très bon.
Déjà ça croustille, non?
Tout à fait, ça croustille, c'est moelleux à l'intérieur, c'est un corps tiède. Excellent, le bon goût du pois chiche.
Excusez-moi.
Demande-moi si je peux poser une question. Est-ce que c'est vrai que c'est le meilleur houmous de Jérusalem?
Oui, yeah.
Pourquoi?
Yes. Parce
que c'est populaire et c'est l'héritage de la famille. Depuis le grand-père et son père a passé le récipe à lui. Et on attend encore la prochaine génération de Abou Choukri.
Et dernière question, il ne veut pas monter ses prix?
Jamais, parce que ça c'est la nourriture, le plat populaire. Il faut que ça soit accessible par le plus pauvre, le moyen, les riches, tout le monde s'est réuni ici dans le même endroit.
Recette secrète mais excellence de houmous, vous êtes un peu frustré. Ouais.
Évidemment, écoutez, je suis frustré.
Ça fait 4 générations qui se l'échangent de génération en génération. Je peux juste vous assurer qu'il est vraiment délicieux, pas cher, bon marché. On mange là-bas, alors évidemment le houmous, mais tout le reste pour quelques euros par personne. C'est vraiment la définition même de la cantine populaire d'influence levantine, Abou Choukri, dans la vieille ville de Jérusalem. Jérusalem n'est pas qu'une ville arabe. La communauté juive a aussi des choses passionnantes à nous faire goûter, notamment dans le fameux souk juif de Mahane Yehuda. Dans 15 jours, à l'occasion d'une émission que l'on consacre entièrement au kebab, je vous fais découvrir, promis, l'un des meilleurs sandwichs de ma vie, le malawash, un sandwich juif d'origine yéménite. Debout là-dedans, Delgues nous réveille en fanfare avec son titre « Monsieur Président ». On parle petit déjeuner sur France Inter.
Mais moi, quand t'es bas, moi, faire la confiance.
Sert un plateau petit déjeuner en ce dimanche 13 mai sur France Inter. Le petit déjeuner a toujours été mon repas préféré. Cette profusion de choix et de couleurs pour commencer la journée me donnait l'illusion d'une grande fête à venir. Écrivez-vous, Lily Barbéry-Coulon, dans votre livre Pimp My Breakfast aux éditions Marabout, d'où vous vient cette obsession de transformer le petit déjeuner, qui pourrait être a priori considéré comme un repas matinal assez banal, en un repas festif.
D'abord, je crois que je me suis toujours levée plus tôt que les autres, hein, oui. Même quand j'étais enfant.
Ça, c'est une qualité, une chance même.
Ouais, c'est plutôt une chance, je me lève sans réveil. Et du coup, j'aimais bien préparer en fait pour tout le monde la table du petit déjeuner. Mm-hmm. Et j'ai toujours aimé ce repas où finalement, il n'y a pas beaucoup de règles nutritionnelles. Ou en tout cas, on ne nous embêtait pas à manger des haricots verts. Quand on était petit, il y avait quelque chose de festif parce qu'il y avait plein de paquets de couleurs, de céréales. Et on pouvait manger des fois du salé, des fois des céréales cuites. Ou cru, enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que j'étais enthousiaste à l'idée de commencer la journée par le petit déjeuner.
J'ai le sentiment, à parcourir votre livre de recettes, qui est quand même dans une profusion de couleurs, de recettes, d'influences d'ailleurs assez étrangères, qui est dans le pur épicurisme, que vous vous méfiez en fait un peu des faux-queues, des yakas, de toutes ces injonctions nutritionnelles dont on peut éventuellement pâtir en ce moment, et que vous considérez le petit déjeuner véritablement comme un repas défouloir.
Oui, alors après, l'idée, c'est pas de se gaver pour se gaver, hein, c'est plutôt de se dire que, puisqu'il y a peut-être le petit déjeuner subit moins de pression que les autres repas, il faut peut-être en profiter pour varier les plaisirs et essayer de découvrir d'autres choses que ce à quoi on nous a habitués. Parce que c'est très souvent, en fait, un repas où on répète les mêmes choses tous les jours.
C'est vrai, c'est répétitif.
Et c'est un peu triste, en fait. On se lasse. Il y a des tas de personnes qui mangent uniquement des céréales industrielles le matin, en boucle. Mm-hmm. On peut peut-être faire autre chose.
Et en même temps, vous ne perdez pas de vue la notion de bien-être.
Oui, bah l'idée c'est vraiment, enfin, de profiter de ce moment. Moi, j'y accorde du temps, donc on pourrait se dire bon, c'est du temps perdu, j'ai pas le temps le matin. Mais ce temps-là, en fait, j'en fais une forme de méditation en pleine conscience. Alors ça fait peur ce mot-là et c'est un petit peu lourd en sens, mais si on est très concentré sur la découpe de ses fruits, sur la présentation de son assiette, bah peut-être en fait qu'on va passer une journée un peu différente.
C'est ça. Une question qui vous revient souvent en boomerang, j'ai presque envie de dire, puisque vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Quand on regarde votre livre avec la profusion de choses que vous êtes capable de faire, des recettes les plus appétissantes les unes que les autres, on a d'ailleurs un banana bread là qui me regarde un peu bizarrement, je vais lui faire sa fête. Où prenez-vous le temps de faire tout ça? On a compris que vous aviez la chance de vous lever un peu plus tôt, mais enfin quand même.
Bah, j'ai 24 heures comme tout le monde,
oui.
Donc le temps que je prends pour le petit déjeuner, c'est du temps que je vais prendre sur d'autres choses dans ma journée. Peut-être que je passe pas beaucoup de temps dans la salle de bain, je me maquille peu, donc je considère que c'est du temps pour moi. Évidemment, bah, c'est plus simple parce que j'ai une fille qui est grande, j'ai pas des tout petits enfants, je suis pas réveillée la nuit par un bébé. Je crois que tout le monde peut pas se mettre la pression à faire un petit déjeuner absolument parfait, c'est pas l'idée. L'idée, c'est juste de peut-être consacrer 5 minutes de plus à se faire quelque chose qui est beau et qui fait du bien à regarder et à manger.
Alors, juste avant de manger justement, et notamment ce banana bread dont vous nous avez promis la recette, on va l'avoir dans un instant. Petite précision à la fois historique et sémantique de notre géohistorien Christian Grataloup, auteur du Monde dans nos assiettes, 3 siècles de petit déjeuner chez Armand Collin, dont je recommande à nos auditeurs la lecture. Premièrement, point sémantique effectivement, Car on sait qu'il y a des ambiguïtés et des quiproquos autour du terme petit déjeuner, déjeuner. On sait que cette expression a évolué et n'a pas toujours voulu dire la même chose.
On peut effectivement se tromper si vous êtes en Suisse et qu'on vous invite à déjeuner, ça sera le matin. Si on vous invite à dîner, ce sera le midi.
C'est ça.
Le soir, ce sera pour le souper. C'était d'ailleurs dans mon enfance comme cela.
Mais alors, comment est apparu ce petit déjeuner? Comment est apparu l'adjectif?
C'est uniquement en français quand est apparu un nouveau repas qui apparaît au début du 18e et qui est à base de boissons exotiques qui viennent de très loin. C'est lié à la colonisation, en fait.
C'est ça.
Le café, le chocolat et la canne à sucre, puisqu'on va manger sucré. Petit à petit, le vocabulaire a évolué, le mot déjeuner, mais c'est uniquement en français, a glissé du côté du repas de midi. Et le souper a disparu pratiquement, sauf à être très nocturne, et c'est le dîner qui est passé le soir. Mais c'est en français seulement, parce que breakfast qui a exactement la même étymologie. Hein, ça veut dire rupture du jeûne.
C'est ça.
Déjeuner, breakfast, c'est l'un des deux façons d'appeler le repas du matin, l'autre étant encore plus simple, c'est le premier repas, la prima colazione, le frühstück.
Déjeuner, c'est rompre le jeûne, ce qui explique d'ailleurs qu'à un moment donné, beaucoup de linguistes se sont battus pour garder le petit chapeau,
l'accent circonflexe
déjeuner, car ça vient du mot jeûne.
Tout à fait, il y en a qui persistent à l'écrire ainsi. Bon, étant donné que ça ne s'entend pas, c'est pas un jeu lyonnais, c'est pas grave. Hein.
Vous-même, le lyonnais, il vous est arrivé des bricoles. Alors, lyonnais, ça nous fait déjà un point commun.
Oui.
Vive Lyon, on est d'accord?
Tout à fait.
Capitale gastronomique de France?
Absolument.
Ça, c'est dit.
Bon.
À partir des années 70, quand vous avez débarqué à Paris, là aussi, quiproquo.
Oui, oui, tout à fait. On m'a effectivement invité à déjeuner. Moi, je suis venu très tôt. Hein. Et j'étais très heureux de voir cette anecdote dans un texte de Balzac hein, qui raconte ça. Le provincial qui, effectivement, arrive trop tôt parce qu'on l'invite à déjeuner alors que les gens l'attendaient à midi.
Voilà, tout simplement. Ouais. Bon, maintenant, vous êtes fait, vous savez ce que c'est qu'un petit déjeuner et
un
déjeuner.
Oui, tout à fait, mais je crois qu'il vaut mieux préciser chaque fois.
Mais d'ailleurs, vous prenez des petits déjeuners tous autour de la table parce qu'en France, on est quand même pas très très calé en la matière. Hein.
C'est une très bonne question, petit tour de table.
On sait Jérôme, ce que boit au moins
Jérôme Gagné de petit déjeuner, parce qu'il y a deux bouteilles de rouge qui l'escortent. Vous petit déjeuner ou pas?
Jamais.
D'accord, ventre vide. Et on va poser la question à Lily, c'est intéressant, Elvira.
Moi, des litres de café et éventuellement un croissant à la boulangerie en bas de la maison, une banane quand je suis un peu plus en mode sain.
C'est ça.
C'est vite expédié. En vacances, c'est autre chose.
Christian Grataloup, c'est vrai, quand on a le temps et on a le ventre peut-être plus disponible.
Non, moi c'est copieux. Thé au lait sans sucre, beaucoup de tartines, fromage blanc avec la confiture et fruits, surtout beaucoup de fruits.
Bon, Lily, on a compris, on vous pose même pas la question.
Moi, je petit déjeune, mais je tiens quand même à dire que les gens qui ne petit déjeunent pas le matin ne doivent pas changer leur habitude parce qu'on fait la promotion du petit déjeuner, moi, à travers mon livre ou d'autres. Si le métabolisme ne réclame pas de manger le matin, je crois qu'il faut surtout se fier à sa satiété. Et si on a fait un dîner copieux la veille, il est probable qu'on n'ait pas faim le matin. Et je trouve que ce qui est terrible, c'est que souvent, on force les enfants à manger le matin parce qu'on ne les laisse pas à l'école manger à 11h au moment où ils ont véritablement faim, on les laisserait partir avec un fruit. Ce serait bien plus sain pour tout le monde, parce que forcer un enfant à manger de peur qu'il ait faim quand il n'a pas faim, on le détraque complètement. En
Mais c'est vrai qu'il y a un peu l'ordre parental de dire aux enfants, moi j'ai jamais mangé trop le matin et j'ai toujours entendu ça de mon papa et de ma maman qui me disaient, tu ne vas pas à l'école le ventre vide, il faut que tu manges des céréales,
des
sucres lents pour résister et tenir,
résultat
avoir l'énergie
des courses,
jusqu'au déjeuner.
Ils mangent du houmous le matin maintenant.
Voilà, puisque je, effectivement, là pour le coup, en Terre Sainte, on mange très salé le matin.
Oui,
Christian Grataloup.
Une simple opposition entre le nord et le sud de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, on mange beaucoup. Dans le sud, on mange très peu le matin.
C'est ça.
Justement parce que le soir, on mange beaucoup et tard en Italie et encore plus en Espagne. Donc, on mange peu le matin. Et on mange très tard. Hein. Le chocolaté con churros de l'espagnol, ça va être à 11h du matin.
Voilà. Comme quoi, on a encore des habitudes très différentes d'une personne à l'autre. Et si on se le faisait, ce cake à la banane?
Ça marche.
Banana bread en bon anglais, c'est ça?
Oui. Alors, moi, j'avais envie un petit peu de l'alléger parce que très souvent, ils sont quand même assez caloriques, très très riches, surtout ceux qu'on mange aux États-Unis. Ils sont parfois servis avec une crème au mascarpone, voilà, qui nous assassine un peu le ventre.
C'est beaucoup de gras.
C'est délicieux, mais peut-être qu'on a envie de quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc moi, j'ai tenté de réduire en fait le sucre. Et là, dans la recette du livre, j'ai mis du sucre roux, mais dans celui-ci, j'ai décidé de mettre du sucre de coco, qui a un indice glycémique un peu plus faible.
Très bien, on le trouve facilement, le sucre de coco, notamment dans les les magasins biologiques.
Oui, on le trouve facilement. Après, il est très cher, donc on s'en sert pas pour tout parce que sinon c'est vraiment trop ruineux, quoi.
C'est presque comme un assaisonnement en quelque
sorte. Exactement, parce que ça va apporter un petit goût caramélisé à la recette.
Comment on s'y prend? Il est très beau. Il y a Elvira qui est en train de partager ce banana bread qui a vraiment belle allure, hein, avec ses reflets cuivrés, brun clair. Ça fait vraiment envie.
Alors, je donne toute la recette.
Oui. Ouais.
Donc, pour réaliser un...
Pardon, je me suis mis de la crème partout, excusez-moi.
Pour ajouter du sirop d'érable, pour ceux qui aiment pas, qui ont envie d'un goût un peu plus sucré, parce que le mien n'est pas très sucré, mais justement, le sirop d'érable va permettre à chacun d'ajuster et de rajouter un petit peu.
Je veux bien un petit peu de sirop d'érable.
Voilà. Alors, la recette. Pour un cake pour 8 à 10 personnes, il faudra 250 g de farine de blé.
D'accord.
125 g de sucre. Alors, on choisit celui qu'on veut. Hein. Si on n'a pas de sucre roux, on peut aussi utiliser du sucre raffiné. Moi, il n'y en a pas dans ma cuisine, mais...
On évite le sucre blanc.
Exactement. Une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire.
Oui.
2 cuillères à café de levure chimique. 1 cuillère à soupe de jus de citron. 75 g de beurre salé. Ça sert d'exhausteur, ça marche vraiment bien dans le sucre. Je cuisine pas autrement qu'avec du beurre salé.
Vous en mettez un peu, mais raisonnablement.
Oui, il n'y en a pas trop. En fait, on va aller chercher le moelleux avec les bananes.
Et oui, et là, il faut combien de bananes?
2 bananes bien mûres.
Ah, on les préfère forcément bien mûres.
Oui, parce que plus elles seront mûres, plus le gâteau sera sucré et moelleux.
D'accord.
Ensuite, 4 cuillères à soupe de poudre de noix de coco. 60 ml de boisson aux amandes. Alors, c'est le lait aux amandes. On ne dit plus lait aujourd'hui. On est obligé de dire boisson aux amandes.
On n'a plus le droit de le dire.
Voilà,
on n'a pas le droit de dire les végétales.
Exactement, le lait ne s'applique qu'aux produits issus des animaux. Et puis 2 œufs. Et si on a envie d'un petit peu de déco, rajouter une banane supplémentaire pour la décoration.
Alors précisons que la recette est en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Notamment, on ne rentrera pas dans le détail du topping, c'est-à-dire cette espèce de manteau crémeux qui enveloppe littéralement le dessus du gâteau. En revanche, les principales étapes pour faire ce cake, on précise d'emblée qu'il est délicieux. Il n'est pas trop sucré, et ceux qui veulent le sucrer un petit peu, ils peuvent y aller sur le sirop d'érable.
Absolument délicieux, moi je me régale. Il y a un côté un peu caramélisé, un peu ambré comme ça.
Pardon. Est-ce qu'il a goûté le gagnèse?
Oui.
Alors?
C'est pas ce que je préfère.
Ah non mais franchement, mais vous pouvez y aller tranquille. Moi je vous donne ma validation et je pense que certains de nos auditeurs qui vont l'essayer. Vous en pensez quoi? Vous l'avez goûté, Christian?
Ah, tout à fait. C'est moi, je trouve ça très bien, en particulier parce qu'il est peu sucré. Oui. Cela dit, banane et noix de coco, vous renforcez le caractère tropical d'origine des produits du petit déjeuner.
Et ça, on va en parler, car les boissons chaudes ont effectivement des origines tout à fait exotiques. Toutes les boissons que l'on consomme, que l'on boit en Occident. Alors les étapes, en fait, c'est pas très compliqué.
Non, on va mélanger tous les ingrédients secs dans un saladier. Et puis, on va mixer, en fait, tous les ingrédients, donc banane, le beurre fondu, la boisson aux amandes et le jus de citron dans un mixeur.
Oui.
Et puis, on va ajouter, en fait, le mélange liquide aux ingrédients secs et rajouter les 2 œufs à la fin. Et ça part au four à 170 degrés pendant 20 minutes. Donc, c'est court. Alors, c'est sûr que moi, je vais être honnête, je prépare pas ça chaque matin. Ça va être le week-end, ou bien je peux le faire la veille. Et la veille, en fait, si on veut garder le moelleux, une fois qu'il sort du four, on va attendre un tout petit peu et le mettre au congélateur 20 minutes.
Ah bon ?
Ouais, ça va saisir et ça va permettre de garder toute l'humidité, en fait, à l'intérieur du gâteau plutôt qu'elle s'évapore.
Ça alors, ouais. Incroyable. D'ailleurs, vous recommandez effectivement de le préparer la veille du petit déjeuner. Donc ça peut être fait en fin de journée vers 18h.
Ouais.
On le congèle un coup, ensuite on le conserve, j'imagine, sous un torchon.
Oui, et puis de toute façon, normalement, enfin, c'est vite mangé.
Oui, ça je vous confirme. D'ailleurs, il reste une petite part pour moi au pain de néo-gloutien. J'ai très faim, en fait.
C'est vraiment bon. Hein.
Oui, j'en veux bien une autre part.
Le jus de citron dans la recette, ça sert à quoi? Éviter que ça noircisse, tout simplement, non?
Moi, je trouve que la banane, quand on la mixe, le fait de mettre un petit peu de citron, ça la relève quand même un petit peu. Parce que l'ensemble, en fait, c'est quand même un peu plat.
Ça donne un coup de fouet, quoi.
Oh, exactement.
Elvira, interdit d'en manger, car on ne fait jamais sa chronique la bouche pleine.
On va déguster.
Du café. Alors, on parlera du café à boire dans un instant avec notre historien Christian Grataloup, mais là, il s'agit d'une autre forme de café, Elvira.
Oui, je parle de café solide ou de café qui entre dans la composition de la pâtisserie. Mm-hmm. Rien d'étonnant, en effet, à ce que le café occupe une place de choix dans le registre sucré pâtissier français, puisqu'on en consomme depuis du café depuis le XVIIe siècle.
Oui, en Europe, oui.
En Europe. Et il occupe une large place dans la création de, j'allais dire, de totems pâtissiers, comme par exemple le mocha ou l'opéra,
oui.
Ou évidemment les déclinaisons que l'on connaît par cœur de l'éclair et la religieuse.
Ça, ce sont des classiques.
Ouais. Alors, le problème, c'est que longtemps, jusqu'à une époque récente, les pâtissiers n'étaient pas toujours très regardants sur la qualité et l'origine du café qui servait à composer ces gâteaux. Un peu comme pour la vanille. C'est que la vanille, longtemps, ça a été des extraits de vanille complètement artificiels. L'utilisation de vraie vanille goût, c'est assez récente. Et la norme dans la plupart des maisons était plutôt de et ça l'a encore beaucoup d'ailleurs, de travailler des ersatz industriels de café, notamment le Trablit, pour ne pas nommer la marque. Le Trablit, c'est un extrait de café,
ouais.
Avec une saveur très très monolithique, torréfiée au point pratiquement d'être cramée, et dont l'amertume ressort tellement qu'elle oblige les pâtissiers à sucrer à mort pour compenser justement cette amertume assez déplaisante.
Incroyable, mais heureusement, évidemment, la vision des pâtissiers concernant le goût du café et la matière première évolue. Le premier à s'être vraiment intéressé au sujet café dans ses créations pâtissière, c'est
Pierre Armé, comme souvent, avec sa tarte infiniment café, ou plutôt au-delà de la recette qu'il a imaginée en 1999, je crois, aux améliorations qu'il a apportées au fil des ans à sa recette de tarte infiniment café. Il a rencontré Hippolyte Courty, que nous avons déjà reçu ici, l'un vraiment des artisans des cafés, des specialty coffee, comme on dit en anglais, ou des cafés de terroir, des cafés de spécialité.
C'est l'enseigne L'Arbre à Café.
L'Arbre à Café. Et Hippolyte a fait découvrir à Pierre Armé des cafés d'exception, des cafés de terroir, comme notamment le...
Il y a juste un éclair qui a atterri comme ça, comme une espèce de météorite, sur la chronique d'Elvira.
Je bouge un peu trop des mains, en fait. Comme le Lapard rouge du Brésil, ou le fameux Bourbon pointu de la Réunion,
oui.
Que nous avons eu la chance de goûter lors de notre émission.
Bien sûr.
L'an dernier.
Qu'on va déguster à voyager jusqu'à la Réunion,
ouais.
Pour goûter ce bourbon pointu.
Il lui a fait découvrir également les techniques de mouture, d'infusion à froid, à chaud, l'importance de la qualité de l'eau, tous ces facteurs qui contribuent à opérer la différence entre un produit d'exception et un produit standardisé. Alors, bien d'autres pâtissiers se sont penchés sur le sujet. Je pense à Jacques Génin, je pense à Claire Damon de l'enseigne des gâteaux et du pain, je pense à Cédric Grolet.
Ouh là là, le petit génie du Meurice.
Ah bah oui.
Ouais, Cédric Grolet dont on parle beaucoup en ce moment.
Exactement.
À Paris.
Exactement. Une maison comme le nôtre, même, a entrepris la démarche similaire. Guy Krenzer, qui dirige la création de la maison Le Nôtre, s'est passionné pour le sujet, au point de réviser récemment tous les classiques de la maison, en s'associant avec la caféothèque de Paris, pour choisir un café d'exception bien précis, issu d'une production éthique. Il s'agit du Chitul Finca El Tirol, qui est produit dans la région de Coban, au Guatemala, qui a des notes accessibles comme ça de miel et de cacao, une belle rondeur, une jolie acidité, due à une très légère fermentation. Et on retrouve ce café dans les éclairs, le bonbon de chocolat fourré de ganache au café, et histoire de boucler la boucle, le fameux opéra dont je vous parlais, inventé par Gaston Le Nôtre.
Vous les avez ?
Évidemment, je les ai. Je les ai pas coupés. Donc quelqu'un va se dévouer.
Bah, on va distribuer
opéra,
ça.
Éclair.
Et si on proposait à Jérôme Gagnès de faire
le service,
distribuer,
tiens, pour une
allez,
fois.
S'il vous plaît, on se lève.
Allez, rendez-vous un petit peu utile.
Non, mais on va goûter ça avec des cafés de qualité. Il y en a un qui n'aime pas du tout l'opéra. C'est Vincent Ferniaud,
oui.
C'est-à-dire.
Alors Vincent Ferniaud, que l'on connaît bien, qui est journaliste, animateur. Vous pouvez le voir tous les jours à la télévision dans Midi en France.
Bien
grand
sûr.
Cuisinier,
et oui.
Bec sucré devant l'éternel. Il m'envoie d'ailleurs de temps en temps des photos de pâtisserie qu'il me recommande. Pour lui, les amateurs de pâtisserie se divisent en deux camps. Ceux qui sont chocolat et ceux qui sont café. Lui appartient clairement au second camp. Il trouve que le chocolat est un peu envahissant, un peu monolithique. Ça n'appartient qu'à lui, ce propos. Et considère surtout que l'hérésie absolue, c'est le mélange chocolat-café, donc l'opéra vraiment très peu pour lui.
D'accord.
Il aime tellement le café qu'il rêve depuis des années de pouvoir croquer un carré de café, mais aussi de permettre aux gens du métier d'arrêter le Trablit, dont je vous parlais, qui est cet extrait de café industriel.
Oui.
Tout le monde ne peut pas se permettre, comme Pierre Armé, de faire des infusions avec des cafés à je ne sais pas combien de milliers d'euros le kilo.
Mmh.
Il a commencé à en parler il y a 15 ans autour de lui, sans grand écho. Tout le monde disait oui, c'est ça, un carré de café impossible. Jusqu'à ce qu'il s'en ouvre au grand chocolatier de Roanne, François Pralu, et que celui-ci lui dise, viens, on y va, on va le faire, ton carré de café. Et ça donne ceci.
Incroyable. Alors, ce n'est pas du chocolat, ça a l'apparence évidemment d'une tablette de chocolat, sauf que ce n'est fait qu'avec la fève de café, la graine de café.
Et après, on trouve les mêmes composantes que dans n'importe quelle tablette de chocolat. Un petit peu de sucre, un petit peu de lécithine de soja qui n'est pas indispensable, mais en l'occurrence, il y en a, et un peu de beurre de cacao.
Alors, impression, c'est incroyable.
C'est très bon. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est que
question gratte à loup.
Le chocolat est passé du liquide au solide au milieu du 19e siècle.
Oui.
Des Anglais qui l'ont inventé, d'ailleurs. Et le café vient de le faire, alors le prochain, c'est le thé.
C'est ça.
Ah oui, tablette de thé.
Bien, tablette de thé, le carré de thé.
Alors évidemment, pour obtenir cette tablette, ce carré de café, il y a eu beaucoup de travail. Parce qu'un grain de café, c'est beaucoup plus dur qu'une fève. Le conchage a été difficile. faut pas obtenir une mouture trop fine, sinon ça tient pas. La torréfaction aussi, parce que le café se torréfie beaucoup plus chaud que le cacao. Et ensuite, quand on le conche, on le réchauffe une deuxième fois. Donc, il y a un risque de présence d'un goût comme ça, un peu brûlé, qui est avéré. Donc, c'était beaucoup de boulot. Pour l'heure, sa tablette est confectionnée avec un Arabica du Brésil, qui est un bon café d'accès avec son côté un peu acidulé. Et Vincent entend le décliner avec d'autres crus. Je trouve ça assez extraordinaire.
Ah oui, étonnant. C'est quoi les prix ?
C'est assez cher pour l'instant. C'est 4,90€ la tablette de 50 grammes. Donc c'est plus cher que du chocolat, mais c'est un produit artisanal, compliqué à réaliser pour l'instant. Et je trouve ça complètement épatant. Vous savez qu'il a fait goûter à Pierre Armé ?
Oui.
Et que Pierre Armé lui dit « Ah, sympa ton chocolat aromatisé au café !»
Il est tombé dans le panneau. Ouais. Vous avez aimé ou pas, Lily ?
Ouais, c'est vraiment étonnant.
C'est étonnant.
Moi, je bois très peu de café et je trouve que là, on a le meilleur, en fait, de ce que j'aime dans le café. Quoi. C'est vraiment délicieux.
Les tablettes de café voilà. Où le grain de café remplace entièrement la fève de cacao. C'est... Voilà un travail incroyable qui fait avancer la création chocolatière et pâtissière.
C'est assez
remarquable. On va pas dire chocolatière,
non.
Mais même si c'est un savoir-faire chocolatier, mais la création sucrée et pâtissière.
Bien sûr. C'est extraordinaire, pardon, j'interviens, c'est extraordinaire ce que ce café qu'on goûte là, il y a une pureté aromatique qui est absolument inouïe.
Oui.
Moi, j'adore le café. Le café très fort, très serré, et c'est absolument admirable.
Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je viens de goûter l'opéra que vous nous avez apporté signé le nôtre, et je trouve que chocolat et café, ça fait un très très stimulant mariage qui me séduit beaucoup.
Alors attention,
chocolat,
en revanche,
café.
Vous ne croquez pas la tablette entière le soir. Une tablette de 50 grammes, c'est 3 espressos quand même.
C'est ça.
Donc il planche sur une version déca.
Oui.
Non mais c'est vrai.
On risque de faire des sauts de cabri en en mangeant un peu trop le soir, effectivement. Donc il faut faire attention.
Et de prendre un bon petit déjeuner le lendemain matin, du coup, pour se remettre de ses émotions.
C'est ça, à consommer avec modération. Dans un instant, encore des recettes signées Lily Barbéry-Coulon et puis des anecdotes historiques, évidemment, sur l'histoire du café. Mais tout de suite, Mr. Tillman, Father John Misty. On est bien sur France Inter.
Good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't, oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay? You and your guests have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no it's not too bad a climb. Thank you.
Le petit déjeuner au menu dont on va déguster avec en plateau avec nous Lily Barbery Coulon. Vous avez signé Pimp My Breakfast. On a compris que ça voulait dire donner un peu d'éclat à son petit déjeuner aux éditions Marabout. Et Christian Grataloup qui a signé Le Monde dans nos tasses, trois siècles de petit déjeuner chez Armand Collin, où on apprend toute une foule d'anecdotes sur l'histoire du petit déjeuner. Déjà, pour situer un peu l'invention du petit déjeuner dans son acception moderne, c'est-à-dire une boisson chaude entourée de quelques aliments à déguster, comme des tartines, etc., ça daterait à peu près de quelle période ?
Tant qu'on l'entend avec du thé, du café ou du chocolat, c'est le début du 18e.
C'est ça.
Mais la boisson chaude, ça peut être très ancien parce que la soupe est certainement l'une des formes les plus anciennes du petit déjeuner.
Bien sûr.
Y compris en Chine, au Japon. Chine où on boit aussi de l'eau chaude.
Absolument.
Voilà, boisson chaude, il faut boire le matin parce qu'il faut se réhydrater après la nuit.
C'est ça.
On a perdu beaucoup d'eau.
Vous dites très justement que le petit déjeuner est par excellence le repas de la mondialisation, car depuis finalement quelques siècles en France, la place centrale du petit déjeuner est occupée par une boisson qui nous vient de très très loin. Le chocolat, le thé ou le café sont par définition des matières premières exotiques.
Oui, elles sont tropicales, ça pousse pas sous nos latitudes. Et d'autre part, ça vient de régions du monde très différentes, puisque le chocolat, le cocoal, c'est un mot aztèque, hein, ça vient donc d'Amérique. Le thé, c'est chinois. Et le café, qui est africain, éthiopien, et il est passé par le monde arabe.
Le chocolat chaud, on le boit pas tout à fait dans ce qu'il était dans sa forme originelle, d'une boisson, un peu une espèce de potion assez amère. Ça a évolué.
Et oui, ce sont les Espagnols qui ont amené la canne à sucre en Amérique. Donc le cacao, le cocoalt des Aztèques, c'était un truc très amer avec du piment, le plus souvent. Une boisson plus ou moins sacrée, parfois fermentée. Donc les Espagnols ont trouvé ça épouvantable. Mais quand ils ont mis du sucre dedans, c'est-à-dire au milieu du 16e, ils ont inventé le chocolat. Alors là, ils ont trouvé ça formidable. Et c'est l'Espagne qui a été l'introductrice du chocolat en Europe.
Le café a quand même la place dominante, hein, comme
oui,
boisson dans les petits déjeuners des Occidentaux et même dans le monde.
Même chez les Anglais d'ailleurs.
Oui, plus que du thé.
Autant que le thé.
D'accord. Comment vous l'expliquez, cette position dominante du café?
Le café est celui qui permet d'être excité le plus vite possible. Donc, parce que la théine, c'est plus long à métaboliser. Le café, effectivement, c'est la boisson la plus bue au monde après l'eau.
C'est ça.
D'ailleurs, c'est pas un hasard si la Finlande, la Norvège et la Suède sont en tête de consommation du café dans le monde.
Consomment la plus grande quantité, c'est de l'ordre de 6 litres par personne.
Les hivers sont les plus longs,
et puis, les meilleurs. Surtout, ce sont les meilleurs acheteurs de café, c'est pas les Italiens.
Oui, c'est absolument les Suédois. Comment expliquez-vous que le petit déjeuner aujourd'hui, comme repas moderne, c'est davantage un repas tourné vers les saveurs sucrées que les saveurs salées? Même le café, on le sucre.
Alors d'abord, le sucre, ça a longtemps été un produit très cher, parce que lui aussi, il venait de très loin. Donc, avant la betterave du 19e. On a associé ce sucre avec ses boissons amères. Alors, on vient de le voir pour le chocolat, mais pour le thé, les Européens se sont mis à mettre du sucre dans le thé, ce qui pour les Chinois est une absurdité.
C'était pour les Européens une façon d'arrondir la boisson ?
Et c'est ça, pour que ce soit moins plus à leur goût, et on rajoutait du lait même. Alors ça, c'est à peu près comme lorsqu'on met du Coca-Cola dans le vin, pour les Français. Donc c'est malgré tout la pratique européenne sur le thé. Et le café est arrivé en Europe déjà sucré, parce que le monde arabe connaissait le sucre, c'est eux qui l'ont fait connaître d'ailleurs aux Européens.
D'ailleurs, le café aujourd'hui turc qu'on boit dans beaucoup de pays arabes, il est originellement sucré, même avec des épices.
C'est le café d'origine, bouilli avec du sucre éventuellement.
Le café turc.
Voilà, ce qu'on appelle le café turc, oui. Les Européens qui se sont mis à le filtrer au XVIIIe siècle, puis inventer des tas de cafetières de plus en plus compliquées pour avoir un café à la fois serré et sans marre. Mais c'est effectivement à partir d'une transformation pas considérable du produit d'origine arabe.
On apprend que la Renaissance marque le début d'une passion française pour les confitures. Le traité des confitures de Nostradamus date de 1552. Comment a été inventée la tartine beurre-confiture en France ?
Alors la confiture, qui au départ n'a rien à voir avec le petit déjeuner, ce ne sont pas les Européens, hein, ça vient de ceux qui ont inventé la culture de la canne à sucre et de ce fait toute la pâtisserie, c'est-à-dire les Indiens.
Oui.
Et c'est passé par les Persans, puis les Arabes, et c'est avec les croisades que les Européens les ont connus. Donc comme c'était rare et cher, c'était très chic d'offrir des confitures ou des dragées pour les Européens au XVIe siècle. Les nobles aimaient bien avoir des vergers, le potager du roi à Versailles, pour pouvoir faire des confitures royales, c'était un truc très important. Ça s'est ensuite, avec le goût du sucré le matin, qui permet d'avoir des calories faciles facile à métaboliser immédiatement en même temps qu'on a l'excitant, c'est quelque chose qui s'est très vite associé au petit déjeuner. Mais la tartine, elle, elle ne date que du 19e siècle parce qu'il a fallu qu'elle ait la baguette ou des pains longs. Or, les pains longs, c'est-à-dire des pains à cuisson rapide, c'est quelque chose qui a été imposé à départ à Paris par la préfecture de police parce que les boulangers, ils faisaient trop de bruit, ils commençaient trop tôt le matin, donc on leur a imposé, sous Napoléon III, de ne commencer qu'à 4h, 5h du matin. Et donc, ils faisaient des pains qui se cuisent rapidement.
D'où ce pain baguette moderne, urbain, longiligne, voilà, que l'on découpe avec une mie très moelleuse et un peu de croûte, voilà, et qui se trempe très bien, qui est très pratique en fait, qui est très fonctionnel.
Qui doit se manger très vite parce qu'il ne se conserve pas.
C'est ça.
Mais effectivement, le fait de mettre du beurre ou autre chose, hein, et surtout de la confiture sur la tartine, ça date, on peut le dire, de la fin du 19e, comme les viennoiseries.
Et on apprend même dans votre livre comment a été inventé le grille-pain.
Ah, le grille-pain, oui, parce qu'on a toujours grillé du pain, ça c'est pas vraiment nouveau, ça permet de transformer les éléments en un élément plus nutritif,
oui,
et surtout d'avoir ce petit côté croustillant, donc ça permet d'utiliser du pain rassis. Mais justement, la baguette qui disparaissait très vite de son côté moelleux, on l'a, dès la fin du 19e, cherché à la griller. À partir du moment où il y a eu l'électricité dans les maisons, bon, c'est-à-dire dans les grandes villes occidentales, fin 19e, hein, on a essayé d'inventer un appareil qui permettait de griller vite. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu qu'il y ait un alliage qui ne soit pas mangé par le réchauffement de l'électricité. Et c'est donc début vers 1905 qu'on a réussi à faire de ce produit industriel qui s'est petit à petit perfectionné.
Et plutôt aux États-Unis au départ.
Grande-Bretagne, États-Unis, le toast, hein, c'est une invention anglo-saxonne. Comme
et on apprend d'ailleurs que c'est aussi aux États-Unis que se situe l'invention, attention, des pétales de céréales.
Effectivement, on mange des céréales et des du muesli, du riz, des tas de granulats depuis très longtemps. Souvent, il faut les faire cuire. C'est tout à fait le problème du porridge, par exemple. Donc, l'idée de les pré-cuire, et qui permet à des gens qui sont dans une situation pas facile, comme des soldats, évidemment, ça a été une bonne solution. Et en 1880, il y a un médecin qui a l'idée de l'utiliser aussi pour ses malades, en faisant des petits pétales grillés au four à l'avance. Ce monsieur s'appelle Kellogg. À partir de là, son frère va monter une entreprise fort florissante qui, depuis, a donné ses petits déjeuners stéréotypés qu'on retrouve.
C'était des céréales transportables, immédiatement disponibles, qui ne demandaient pas de préparation.
Car le petit déjeuner est un repas, souvent, à la différence de votre livre, c'est quelque chose qui se fait très très rapidement et de manière souvent un peu chaotique avec différentes personnes qui se succèdent dans la cuisine, en alternance avec la douche. Enfin, on a toute une mise en place d'un rite qui n'en est pas vraiment un, justement, dans les codifications, et qui date de l'urbanisation du 19e siècle.
Passionnante aventure que celle du petit déjeuner. On va parler dans un instant d'ailleurs avec Lily Barberi de quelques nouvelles habitudes très présentes dans le petit déjeuner, comme par exemple le fameux citron chaud, vous savez, de l'eau un peu tiède avec quelques gouttes de citron. Mais juste avant, cure de détox avec Jérôme Gagnès.
On va déguster sur France Inter.
Jérôme Gagnès qui a décidé de mettre son grain de sel dans cette émission, qui secoue le cocotier, qui met un coup de pied dans la fourmilière, qui détruit notre projet. Vous introduisez du vin au petit déjeuner, vous osez?
Oui, bah oui, bien sûr que oui, j'ose. Je suis là pour ça. Non, mais en fait, le petit déjeuner en tant que tel, évidemment, le vin n'a pas forcément sa place, c'est une évidence.
Rassurez quand même.
Et pourquoi pas d'ailleurs un liquoreux avec des belles confitures, c'est formidable, hein, si on parvient à faire des accords aromatiques magnifiques. Mais non, là l'idée c'était simplement de mettre en avant aussi une forme de petit déjeuner qui était en fait un repas en tant que tel, qui est le mâchon lyonnais. Quand vous m'avez parlé de petit déjeuner, François Régis, immédiatement, je me suis dit, bah tiens, il y a le mâchon quand même, il y a quelque chose à faire avec le mâchon.
Et là, vous prenez Christian Grattalou et moi-même, d'ailleurs, par les sentiments.
Christian et François Régis, je vous prends un peu par les sentiments. Effectivement.
Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le mâchon.
Alors le mâchon, c'est une tradition lyonnaise qui date du 19e, je pense. Enfin, c'était en fait les ouvriers des soieries, hein, qui, enfin des,
oui, oui,
des,
c'est
voilà,
ça, les canuts,
exactement. Et donc, voilà, ils avaient un repas, ils se levaient très tôt, et puis au bout de 2h ou 2h30, ils avaient faim, un peu comme nos enfants à 11h, hein, ce dont vous parliez tout à l'heure, Lily. Sauf que eux, c'est pas une banane, mais c'était quelques charcuteries, un peu de cervelle des canuts et un coup de rouge.
Et le tout bien arrosé, oui.
Et un coup de rouge. Et en l'occurrence, j'ai pensé évidemment à une appellation dont on parle pas suffisamment, à mon sens, c'est les coteaux du Lyonnais.
Et oui, merci de le rappeler.
Bien sûr, joli vignoble situé au sud-ouest de Lyon, ça fait un peu moins de 300 hectares. On en parle très peu et pourtant, c'est un vignoble qui est rattaché administrativement à la Bourgogne, qui a un registre qui est situé entre le Beaujolais et la vallée du Rhône,
oui.
Avec un cépage rouge dominant qui est le Gamay, évidemment. Il y a un projet très intéressant, il est instruit en ce moment, qui serait de pouvoir mettre en AOC 15% de Syrah dans le Gamay et 15% de Viognier dans les Chardonnays et les Aligotés. Ce serait la première AOC en France à autoriser un vin rouge d'assemblage entre du Gamay et de la Syrah.
Intéressant, le dossier est en cours.
Très intéressant, oui.
Vous nous tiendrez au courant de ce dossier.
Évidemment. Donc on commence avec Coteaux du Lyonnais, les Traboules.
Ah, bah les Traboules, vous savez ce que c'est.
Les Traboules, évidemment, ce sont
les passages qu'on empruntait.
Exactement, les passages qu'on empruntait à Lyon. C'est vraiment le terme qu'a choisi Guillaume Cluzel, du domaine Cluzel Roc, qui est un fameux domaine de Côte-Rôtie. Et Guillaume, en 2009, il adore le Gamay, Guillaume. Et on lui propose un demi-hectare de vigne en Coteaux du Lyonnais. Et il se dit, bah tiens, c'est l'occasion ou jamais de vinifier du Gamay et de mettre un pied là-dedans. Et donc maintenant, il a 7 hectares. Ça progresse, il est en bio, il a converti son domaine immédiatement en bio, ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient en bio à Côte-Rôtie, et ça donne ce Gamay pur jus, pur fruit. J'ai évidemment choisi des vins très souples, on s'attend pas à avoir un vin tannique massif, on s'attend à avoir un vin plutôt souple, plutôt coulant, qui accompagnera une cervelle des canuts et une andouillette et de la cochonaille simple, mais de bonne qualité.
Vous aimez Christian Grataloup ?
Oui, oui, il est frais, effectivement, aromatique, avec juste un peu de minéralité, c'est super.
Oui.
Effectivement, avec, le matin, avec un mâchon, ça doit être pas mal.
C'est un vin qui est acidulé, qui est merveilleux. Et j'ai choisi un autre vin que je vais vous faire goûter maintenant. Alors là, pour le coup, on descend un petit peu, on est à la frontière entre l'Ardèche et le Gard, donc dans la région de la vallée du Rhône, un domaine dont j'aime beaucoup le travail. C'est le domaine des Accoles qui a été créé par Florence et Olivier Le Riche. Florence et Olivier, c'est des grosses têtes de l'agronomie, œnologue pour Olivier, ingénieur en génétique de la plante pour Florence. Mmh. Et après avoir passé plus de 13 ans au domaine de l'Arlot en Bourgogne, dans la Côte de Nuit, Olivier s'est d'ailleurs occupé de faire passer le domaine de l'Arlot en biodynamie. En 2011, ils créent leur domaine et font leur premier millésime dans ce sud de la vallée du Rhône. Ils sont entre Bourg-Saint-Andéol et Pont-Saint-Esprit, à la frontière du Gard et de l'Ardèche.
Oui.
Et sur des terroirs argilo-calcaires, ils nous livrent ici une cuvée qui s'appelle le Rendez-vous des Acolytes. Et c'est un vin qui est un pur grenache, c'est des jeunes vignes de grenache. Macération très courte, 8 jours. Donc on ne va pas faire un vin très extrême, on ne va pas faire un vin très puissant, encore une fois. On cherche un grenache sur le fruit, très coulant, frais, avec cette chair rhodanienne, évidemment, hein, on oui. est plus, beaucoup plus au sud, donc on a un vin un petit peu plus confortable. Mais encore une fois, il faut l'imaginer face à une jolie cochonaille, un sabodet par exemple, un tablier de sapeur. Et on a là, encore une fois, un vin qui accompagne très bien cette espèce de repas entre deux, entre le petit déjeuner et le déjeuner, qui est le mâchon. Il s'accompagne merveilleusement avec donc ce domaine des Accoles, les Acolytes 2016.
C'est bien.
Les deux vins sont à des prix très raisonnables. Le Rendez-vous des Acolytes, c'est 9 euros au domaine.
Waouh, belle affaire.
Si vous allez au domaine, c'est 11 euros franco, si vous vous le faites expédier. Et le Coteau du Lyonnais, les Traboules 2017 du domaine Cluzel Roc par Guillaume Cluzel, c'est 8,50 euros au domaine. C'est de vraies petites affaires qui sont merveilleuses, des vins qui sont admirablement faits. Les Acolytes, évidemment, je le spécifie, c'est un vignoble qui est aussi en bio et en biodynamie.
Des petits vins très bien faits, très propres, des petits vins d'auteur à moins de 10 euros pour mâchonner tranquille.
Exactement, et vraiment, ces deux domaines, le Cluzel Roc c'est plus ancien, mais les Acolytes c'est vraiment tout récent et ce sont des gens formidables, les Le Riche. Donc voilà, ils font des très jolis vins, très
toutes
très jolis vins.
Toutes les références sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Merci beaucoup Jérôme Gagnès. Alors Lily, Lily Barbery, on va pas vous demander si...
Si je mange de la cochonaille à 7h du matin.
Je crois qu'on connaît la réponse, non, si on regarde l'un le sommaire de Pimp My Breakfast, l'ouvrage que vous avez signé chez Marabout, c'est plutôt Irish Soda Bread, muesli, pancake, bagels, etc. Et là, ça fait à ma gauche, c'est Elvira Masson. Quelques habitudes que j'ai relevées comme ça, notamment sur les réseaux sociaux, de gens qui innovent un peu au petit déjeuner ou qui essaient de se faire du bien avec, par exemple, le fameux citron chaud. Qu'en pensez-vous de cette habitude qui prend de plus en plus d'importance dans nos petits déjeuners?
Moi, je suis comme tout le monde, hein, le produit de mon époque. Je me suis suis mise à boire un citron chaud le matin. Et en interviewant une naturopathe, en l'occurrence Odile Chabriac, je lui ai demandé en fait ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit, mais le citron chaud, en fait, on peut en boire par cure deux fois par an, une semaine ou deux maximum, mais d'accord, certainement pas à longueur d'année, parce qu'au bout d'un moment, ça déminéralise.
En quoi ça consiste en fait? Il s'agit de mettre un peu d'eau tiède dans un verre, enfin une eau à 50 degrés, dites-vous.
Voilà, c'est une eau à 50 degrés et on met la moitié d'un jus de citron ou un jus de citron entier dans une tasse. Mm-hmm. L'idée, c'est de le boire avant de manger, d'attendre un petit peu et on prépare son petit déjeuner et ensuite on se met à table.
Et c'est censé apporter quel bienfait?
Ça va avoir un effet détox sur le foie. Le citron contient aussi des vitamines, mais en fait, elles vont un peu mourir dans l'eau chaude, donc c'est pas vraiment les vitamines là qu'on vient chercher, c'est plutôt l'effet détox sur le foie.
Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il aurait des vertus alcalines, alors que a priori, on se dit, le citron, c'est acide, ça fait mal aux gencives, ça peut faire mal à l'œsophage. Or, pour l'équilibre acido-basique, entre guillemets, de notre organisme, le citron est adapté.
Oui, alors, si on a justement les gencives qui ont tendance à saigner, si on a des problèmes d'acidité au niveau de l'œsophage ou de l'estomac, on ne boit pas du citron chaud le matin. Il faut vraiment éviter, parce que ça va augmenter l'acidité à ce niveau-là. Mais une fois qu'il a été métabolisé, il va avoir un effet alcalin sur le corps. Donc c'est assez surprenant. Le citron n'acidifie pas. Juste, par contre, en frôlant les organes qui peuvent être déjà avoir de l'acidité, là, ça va être un petit peu désagréable. Donc on fait attention et on n'en boit pas tous les matins.
C'est retenu. Merci beaucoup. Deuxième totem très présent. On a tendance à succomber aux super aliments. La spiruline, les baies de goji, le cranberry, etc. Oula, il fait la grimace, Jérôme Gagnès. Que pensez-vous de cette obsession du super aliment qui nous vient notamment de la côte ouest des États-Unis?
Je pense que il y a une forme de snobisme pour certains super aliments et si on cherche à mieux s'alimenter, aller chercher quelque chose qui vient du bout du monde, qui a un bilan carbone absolument épouvantable, juste pour aller un tout petit peu mieux avec des effets qui sont pas toujours vérifiés et vérifiables. Ce qui me fait fonctionner et la manière dont je choisis ces aliments qui soient super ou non, c'est le goût et c'est le plaisir que je vais avoir à les manger.
Donc plutôt des myrtilles en saison parce qu'elles sont bonnes, voilà, que des baies de goji qui n'ont pas de goût, quoi.
Oui, je crois qu'il faut juste faire preuve de bon sens, en fait.
En fait, si on s'alimente de façon équilibrée, a priori, on n'a pas besoin de ces apports extérieurs, mais les super aliments, ça peut faire du bien de temps en temps. Moi, ça m'arrive de saupoudrer sur une tartine de miel un peu de pollen frais qu'on peut trouver notamment dans des boutiques naturelles ou biologiques. Ça a l'avantage d'avoir vraiment le goût de la fleur fraîche. Moi, je l'aime aussi pour des raisons gustatives, évidemment.
Alors moi j'adore le pollen, c'est un produit qui est assez cher, donc j'en utilise pas tout le temps. Je trouve que sur une poire c'est merveilleux parce que d'un seul coup ça lui donne vraiment une facette
florale. Une autre
florale.
Dimension. Ouais. Dernier petit totem, vous avez parlé de lait, Golden Latte, on le voit partout sur les réseaux sociaux, le lait d'or au curcuma, c'est présenté comme la boisson miracle du matin. De quoi s'agit-il et êtes-vous pour ou contre ?
Alors, je crois pas aux produits miraculeux, mais le Golden Latte, donc le lait d'or, c'est une boisson ayurvédique qu'on boit en Inde depuis toujours, qui contient systématiquement un peu de gingembre, du poivre et du miel. Et alors après, on peut
et
mettre...
Et du curcuma.
Et du curcuma, bien sûr.
Qui fait cette couleur dorée, justement.
Exactement. C'est anti-inflammatoire et c'est un produit qui, chez les naturopathes, est très recommandé parce qu'il a de nombreuses vertus. Et même quand on est malade, il a vraiment des vertus et il n'y a pas d'effet de surdosage. Il est liposoluble, ça veut dire que son principe actif ne se libère qu'au contact du gras. Moi, j'utilise une cuillère à café d'huile de coco par tasse.
D'accord, donc du lait végétal, enfin une boisson d'amande, par exemple.
Et une note sucrée. Et moi,
Et le curcuma, on met quelle dose?
On met une cuillère à café par tasse.
De curcuma en poudre?
De curcuma en poudre. Et pour sucrer, moi, plutôt que de rajouter du miel, je vais prendre une date ou un abricot sec. Je fais chauffer mes ingrédients et je mixe, en fait, à la dernière minute, mon lait avec une date ou un abricot. Et en plus, ça va lui apporter vraiment de l'onctuosité.
Ça se boit chaud?
Ça se boit chaud, ça se boit tiède, ouais.
Le Golden Latte, selon Lily Barbery-Coulon. Il y a aussi, mais on n'a pas le temps, mais la recette est en ligne sur France Inter. C'est ces fameuses barres aux céréales et curcuma. Elles ont l'air très appétissantes. Vous nous les avez apportées. On va se régaler juste après l'émission. Merci à tous les deux pour votre participation. Deux livres pour prolonger les saveurs et les savoirs autour du petit déjeuner. Pimp My Breakfast de Lily Barbery-Coulon aux éditions Marabout. Et le deuxième livre, c'est Le Monde dans nos tasses de Christian Grataloup. 3 siècles de petit déjeuner chez Armand Collin. Merci beaucoup à tous les deux. La semaine prochaine, on repart en vadrouille. Oui, nous dressons le couvert au festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo pour une émission en direct et en public depuis le palais du Grand Large. Vous serez du voyage, Elvira Masson.
Avec joie.
Avec également notre chroniqueur Antoine Gerbel. Venez nous rendre visite. Et l'émission sera suivie d'une dédicace de notre livre On va déguster la France aux éditions Marabout et Radio France. Merci à tous, bon dimanche.
Bon dimanche à tous.
Et à dimanche prochain, si vous avez encore faim.